être plongé dans la théologie.
Voilà. Et donc, on a deux autres personnes, Ariane Legrand et Étienne Keller. Tous les deux avaient un engagement ce soir. Ariane, elle avait une réunion de catéchuménat et Étienne, je ne sais plus, qui ont demandé à ce qu'on enregistre la réunion pour qu'ils puissent l'écouter voilà, et profiter de nos discussions. Mais écoutez, maintenant, Marie-Dominique et Manon, la parole est à vous. Je ne sais pas comment vous souhaitez qu'on fasse. Vous me dites, vous vous sentez libre de faire comme vous voulez.
Merci, Aude. Je pense que ce qu'on s'est dit avec Manon, peut-être en premier lieu, c'est de situer un petit peu les deux formations qu'on va présenter ce soir. Parce que moi, je me souviens, quand j'ai fait le CIF, après, pour m'orienter, ce n'était pas forcément facile parce que sur la place, il y a finalement pas mal de formations. Nous, on vient vous parler des nôtres à l'Institut catholique de Paris, mais vous trouvez aussi des formations au Centre Sèvres, vous trouvez aussi des formations au Bernardin. Voilà, il faut s'orienter et peut-être comprendre quel lieu est fait pour nous. Voilà, donc nous, on va vous en parler ce soir avec Manon et puis peut-être que il sera bon que vous parliez avec des étudiants aussi si vous hésitez ensuite pour telle ou telle formation. Tu es d'accord, Manon?
Absolument.
Voilà. Peut-être d'abord en introduction, situer la différence entre les deux formations que nous représentons, Manon et moi, ce soir. Parce que ce sont deux formations en théologie, deux formations de l'Institut catholique de Paris, et pourtant, elles ont des différences majeures. Alors, moi, je vous racontais un peu mon cursus. J'ai fait le CIF, donc il y a longtemps, et ensuite, j'ai fait le cycle C, donc que représente Manon ce soir. Et Manon, elle a fait l'IER, hein, c'est ça?
Non, c'est exactement ça.
Exactement. Et puis, toutes les deux, on a poursuivi voilà, vers le doctorat. Donc, ça nous a piqué, effectivement, et on n'a pas arrêté de boire depuis. Mais il y a une différence entre les deux formations. Alors, on verra tout à l'heure les différences dans les détails et les différences dans les organisations. Mais vous pouvez continuer des études de théologie à la faculté de théologie. Et ça, c'est Manon qui vous en parlera plus spécifiquement. Et à la faculté de théologie, on va partir pour un cursus qui est assez long, mais c'est toujours une année après l'autre, les études. Donc, on oublie hein, quand, voilà, le nombre d'années. Donc, et ce cursus-là vous mènera vers un bac canonique de théologie. Ce qui va le spécifier par rapport à la formation IER dont je m'occupe et dont je vais vous parler, et Manon, tu complètes, ce qui va le spécifier, c'est que on va y trouver des études un petit peu plus spéculatives, un petit peu plus orientées vers la recherche. Et c'est là que normalement se forment les futurs enseignants en théologie. Donc, des gens qui ont déjà vraiment goûté et qui ont envie d'approfondir plus les problématiques théologiques que vous avez déjà vues dans vos cours. Donc, ça, c'est le cycle C que Manon va vous présenter. Et l'IER, c'est autre chose, c'est une formation théologique aussi, mais son orientation, elle est un petit peu plus pastorale. Donc, c'est un cycle qui est un peu plus court et qui n'a pas vocation à former des personnes qui vont approfondir les sujets jusqu'à en faire de la recherche ou de l'enseignement. Donc, là, il n'y a pas une formation qui est plus intéressante qu'une autre. Il y a deux formations qui sont à la fois similaires et différentes dans leur contenu. L'IER, c'est un petit peu plus court et un petit peu plus orienté vers la pastorale. Le cycle C a plus vocation à former des personnes pour l'enseignement ou des personnes qui veulent vraiment voilà, avoir une recherche de foi, mettre leur raison en marche sur la foi de manière un petit peu plus spéculative. Donc, la grosse différence dans les contenus, c'est qu'à l'IER, on va faire moins de philosophie, on va avoir un bagage philosophique qui va être moins important qu'à la faculté de théologie, et puis on n'aura pas d'exigence de langue biblique puisqu'on ne va pas faire d'exégèse scientifique. Donc, on aura des études, bien sûr.
Ah. On n'entend plus.
Une pratique de scientifique d'exégèse. Manon, est-ce que ça va ce que je viens de dire sur la différence et le
oui
entre nos deux formations?
C'est tout à fait ça. Alors, pour quand même que ça soit un tout petit peu plus clair, ce soir, moi, je représente ce qu'on appelle le cycle C, qui est le cycle, le premier cycle, en fait, de théologie qui mène, comme son nom l'indique, vers un deuxième cycle, si on veut, et vers un troisième cycle éventuellement. C'est simplement une dénomination pour particulariser des cours qui ont lieu le soir, c'est tout. Donc en fait, ce que je représente finalement là, c'est le premier cycle de théologie, voilà. Et ce premier cycle, effectivement, il est un cycle universitaire. Donc un cycle universitaire avec les contraintes que ça a et l'exigence aussi que ça peut avoir de valider les matières les unes après les autres, avec effectivement, comme le dit Marie-Dominique, une connotation peut-être plus spéculative dans le sens que on mène vers éventuellement des débouchés de recherche. Donc voilà. Mais dans les contenus de cours, je pense que il n'y a pas grand-chose que vous ayez déjà vu dans le CIF qui au cours du CIF qui est différent en fait. C'est simplement qu'on approfondit. On prend les sujets d'une manière un peu différente, on focalise sur certains sujets, mais c'est toute la base de la théologie est évidemment la même partout.
Bien sûr. Donc ce sont deux cycles universitaires, le premier cycle de la faculté de théologie, et l'IER, c'est un institut supérieur de sciences religieuses qui est rattaché à la faculté de théologie. L'autorité académique de l'IER, c'est le doyen de la faculté de théologie. Donc, on travaille ensemble. On a un certain nombre d'enseignants qui sont communs. Manon a enseigné à l'IER, elle enseigne au cycle C. Moi, j'enseigne la théologie morale fondamentale au cycle C, d'autres cours à l'IER. Et ce qui va effectivement peut-être teinter un petit peu plus particulièrement le cycle C, c'est effectivement cet approfondissement un petit peu plus spéculatif des questions théologiques. Voilà. Mais j'allais dire que après le CIF, que vous alliez à l'IER ou au premier cycle, vous allez déployer ce que vous avez déjà trouvé au CIF. Le CIF vous a déjà donné dans les différents cours, hein, c'est un parcours qui est extrêmement bien construit, et vous avez déjà été introduit à des problématiques théologiques. Et c'est ça que vous avez goûté quand vous dites j'ai envie de poursuivre, ben voilà, vous avez goûté dans les différents cours, que ce soit les cours d'ecclésiologie, les cours de fondamental, les cours d'anthropologie, vous avez goûté à des choses et vous vous êtes dit, tiens, c'est intéressant, j'ai envie d'approfondir. Alors voilà, maintenant, comment et quel est le bon lieu pour moi?
Oui, c'est vraiment ça. Parce que l'éventail des contenus des disciplines, vous l'avez déjà eu. En fait, on va déployer.
On va déployer.
Et voilà. Évidemment, alors là, en entendant des choses un peu plus précises, ça veut dire que si vous décidez de continuer dans l'une ou l'autre des formations de la Cato, vous avez forcément des choses que vous avez déjà faites aussi pendant ces 2 ans que vous ne referez pas. Donc, on va construire un parcours. Alors, je ne sais pas comment ça se passe à l'IER exactement, si tu as cette souplesse-là, Marie-Dominique.
Bien sûr.
Mais on a, nous, on construit des parcours sur mesure en fonction de ce que les étudiants ont fait.
Voilà. On adapte en fonction de ce que les étudiants ont fait dans tel ou tel lieu de formation avant.
Le but, c'est d'arriver à un diplôme. Ça, c'est le type même de la formation universitaire.
Voilà. Et à la fois, les personnes, et peut-être que c'est ce que vous pensez, ce que vous avez à dire, disent assez facilement, je ne viens pas pour le diplôme. Il n'empêche qu'on rentre dans un cursus universitaire, donc ce que disait Manon tout à l'heure, donc il y a des exigences qui vont avec. Et le plus important, je trouve, et c'est ce que vous avez déjà trouvé aussi, c'est la cohérence d'un parcours. Vous voyez, j'entendais l'un ou l'autre d'entre vous dire peut-être que je vais continuer dans des modules, eh ben, c'est différent. Et là, il faut faire un choix. C'est très différent de continuer à suivre des modules, ben voilà, un cours dans tel lieu, peut-être des modules bibliques, et rentrer dans un cursus. Parce que dans un cursus, il y a une cohérence. Il y a un chemin qui vous est proposé, qui est parfaitement cohérent. Et les étudiants que je reçois en ce moment en fin d'année me le disent. Alors, surtout à la fin de la première année, au milieu de la deuxième année, ils comprennent que tout ça, la théologie, elle éclaire les différents éléments sous différents angles et tout ça prend place petit à petit, s'organise petit à petit. Et on devient bien plus intelligent dans sa foi.
Il y a une organicité de la théologie qui se déploie dans ces cursus qui sont construits.
Voilà. Que ce soit le cycle C ou l'IER, je pense que l'intérêt, c'est de nous proposer un cursus cohérent. Parce que sinon, le risque, c'est d'aller choisir, d'aller vers ce qu'on aime et finalement de manquer certains éclairages et certains aspects de la philosophie.
Probablement, vous avez déjà goûté ça aussi, d'avoir un cursus, je pense, d'avoir quelque chose de construit.
Oui, parfait. Est-ce que vous avez des questions déjà ou est-ce que vous voulez qu'on présente les formations de manière un petit peu plus formelle maintenant? Aude, qu'est-ce que tu penses?
Vous voulez? Est-ce que vous voulez...
On continue?
Oui.
Allez, on continue. Manon, tu veux commencer?
Oui, alors, moi, je vais vous parler du cycle C. Donc, je vous le disais, c'est la marche vers le baccalauréat canonique qui est organisée pour des gens qui ne sont pas libres dans la journée. Donc, le cycle C est vraiment destiné, c'est ça sa particularité par rapport à ce qu'on appelait autrefois le cycle A, qui est aujourd'hui s'appelle le premier cycle de théologie tout simplement, et qui se fait en 5 ans. Voilà, je peux vous parler aussi du cycle A, je sais moins bien comment c'est organisé, mais l'idée est donc de mener progressivement vers ce fameux baccalauréat canonique, sachant qu'au cycle C, nous avons depuis l'année dernière, expérimenté une nouvelle maquette d'enseignement qui permet de découper en fait ce temps d'études qui est prévu pour 8 ans, en principe, mais pas pour des gens qui ont déjà fait de la théologie, en trois phases. Donc, nous avons une première phase qui se déroule sur 4 ans. Alors, le cycle C, ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup de temps, donc ils viennent peu à la fac. Il faut quand même que je le dise avant, parce que sinon, ce n'est pas compréhensible de savoir pourquoi on a 8 ans. Donc, ils sont peu à la fac, et donc, ils ont un cours par semaine qui dure 2 heures, donc c'est relativement peu, ce qui fait que l'enseignement général, global, s'étale sur plusieurs années. Donc, l'organisation de l'enseignement, c'est 2 heures de cours par semaine le soir, 20h, 22h, et DTG, les travaux de groupe, je ne sais pas comment vous les appelez vous au CIF, mais...
Des groupes.
Des groupes, voilà. Et on a du travail de groupe, il y a 9 séances dans l'année le samedi matin, et puis 3 sessions, ce qu'on appelle des sessions, sont des journées d'études sur un sujet particulier qui sont là, qui se déroulent de 9h à 17h, donc 3 journées. Donc, si je récapitule, on a 2 heures de cours le lundi soir, 9 séances de TG qui se répartissent finalement sur toute l'année puisqu'il y a des vacances au milieu, donc de 3 heures, et 3 sessions d'une journée le samedi, ce qui fait que ça prend 9 et 3, 12 samedis de l'année. Donc voilà, c'est organisé comme ça. Donc pour l'équivalent dans la journée, ça se passe en 5 ans et là il y a des cours tous les jours. Alors, je ne saurais pas vous dire exactement précisément quels sont les horaires et comment ça se passe, mais c'est des cours dans la journée et tous les jours de la semaine. Donc voilà, la particularité du cycle C, donc, c'est qu'on a divisé l'enseignement en 3 phases. Une première phase qu'on a appelée une phase d'introduction, où pendant 4 ans, on essaye de donner l'ensemble des introductions des disciplines disciplines théologiques, c'est-à-dire on aura abordé au bout des 4 ans toutes les disciplines théologiques sous forme d'introduction. Et au bout de 4 ans, on est, alors ça ne concerne évidemment pas des gens du CIF de le faire en 4 ans, ça, puisque vous avez déjà largement balayé toutes ces introductions, mais je vous donne la règle générale, au bout de 4 ans, on est capable de prendre la parole de manière argumentée, de manière raisonnée, de rendre raison de sa foi dans un milieu associatif, familial, ecclésial, etc. Je vois Bernard qui lève les sourcils. Bon, voilà, c'est l'ambition, c'est l'objectif. Et après quoi, si on est toujours mordu et qu'on veut continuer, on a une phase de 2 ans où là, on approfondit vraiment et le mode pédagogique change puisqu'on travaille souvent sous forme de séminaire, on travaille beaucoup en groupe, on approfondit des sujets dont on a vu les introductions les 4 années précédentes, mais qu'on voit de manière beaucoup plus approfondie. Et les 2 dernières années sont consacrées à la préparation de l'écriture du mémoire de fin d'études qui valide les 8 ans et qui délivre le diplôme de ce fameux baccalauréat canonique. Voilà, donc les 4 premières années, vous aurez, si vous venez au cycle C, enfin on a au cycle C, le choix, une palette, on a essayé de ne pas faire de trous dans la raquette, de l'ensemble des disciplines théologiques, à la fois sous forme de contenu en cours magistral, à la fois sous forme de discussion et d'approfondissement de certains thèmes en TG et en session. Vous avez des questions là-dessus ?
Il y a des équivalences possibles, bien sûr.
Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je dis ça, c'est la règle générale, mais évidemment, pour des gens qui viennent du CIF, on fait un contrat sur mesure pour faire la première phase alors je ne sais pas, il faudra voir, mais pour chacun, mais pour faire la première phase plus vite. Et éventuellement, faire des choses en ligne qu'on n'aurait pas faites au CIF, ou voilà, enfin, faire des compléments. Est-ce que vous avez des questions autres ?
En dehors du temps de présence que vous avez très bien expliqué, qu'est-ce qu'il faut compter comme temps d'investissement personnel, de lecture, je dirais, par rapport au CIF ? Par rapport au CIF, en fait, on peut faire beaucoup de lecture, on peut faire très peu de lecture.
Alors,
mais là, comme on est dans un cursus universitaire, il y a plus d'exigences, j'imagine.
Il y a plus d'exigences, c'est toujours la même chose. On est dans une pédagogie d'adulte.
Hein. Oui, oui.
Voilà, chacun fait comme il veut et comme il arrive dans ses études avec l'histoire qu'il a. Mais ce que nous recommandons pour profiter de ces études, parce que c'est quand même ça le but, hein, c'est d'en profiter, c'est d'avoir une dizaine d'heures, entre 10 et 12 heures de travail par semaine. Et sachant qu'il y a certains moments de l'année où on travaille moins et des moments de l'année où on travaille plus. On prend des moments, des validations, les moments où on prépare un TG, des moments, voilà. Donc, c'est ça qui est recommandé en plus des cours. Il n'y a que 2 heures de cours par semaine. Hein. Donc, évidemment, la contrepartie, c'est qu'il y a de la lecture.
Peut-être que je présente l'IUR et puis après, il y aura des questions de comparaison, probablement. Alors, l'IUR, se différencie du cycle C, je vous ai expliqué un petit peu tout à l'heure sur les contenus, sur le rythme et sur le public aussi. Manon vous a décrit le public du cycle C, qui est un public de professionnels. À l'IUR, c'est un public qui, depuis 50 ans, est mixte, de religieux, religieuses et laïques. C'est vraiment la particularité de cette formation, c'est sa diversité culturelle. Donc, l'année dernière, on avait 25 nationalités de représentées à l'IER. Et donc, voilà, c'est un contact avec la diversité ecclésiale, la diversité culturelle. Ce sont des religieuses qui viennent se former, d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud, de Madagascar. Voilà. Ça, c'est une première particularité. Ensuite, dans le public des laïcs, il y a des, voilà, des gens comme vous, comme nous à l'époque. Moi, j'ai continué mes études sans y être envoyée pour une mission. Donc, on a des gens, des personnes comme vous, qui cherchent à approfondir leur foi. À un moment donné de leur vie, elles se disent quand même, voilà, il faut que j'aille creuser un petit peu plus loin et bah, je vais aller le faire là. Et puis, la deuxième partie du public laïque, ce sont des gens qui sont envoyés pour une mission. Donc, ils sont en mission pastorale dans leur diocèse, dans leur mouvement, dans leur paroisse. Ils sont responsables de tel ou tel mouvement, de tel ou tel secteur. Et puis, on leur dit, pour assurer vraiment vos missions et pour être à l'aise dans le monde contemporain, pour pouvoir écouter les questions des jeunes, rencontrer des adultes et vraiment parler avec eux, ben, il faut aller se former. Et dans ces cas-là, ça fait partie de leur mission que d'aller se former à l'IEL. Donc ça, c'est la spécificité du public. Je le dis parce que c'est ce que relèvent aussi nos étudiants. Hein. Ils nous disent, voilà, un TD où on est en train de discuter, on a tous lu le même texte, mais il y en a une qui est de culture vietnamienne, une autre de culture malgache, et puis il y en a une qui a une expérience plutôt rurale en église, et puis un autre qui n'est pas spécialement engagé, ça fait des expériences d'église différentes, des expériences de foi différentes, et on s'apporte en travaillant ensemble. Donc ça, c'est le public. La deuxième chose, c'est le rythme. Manon vous a dit finalement que le cycle C, ça change peu par rapport au CIF. Et c'est vrai que du coup, on est habitué à avoir 2 heures de cours par semaine, le cycle C est organisé comme ça. L'IER s'adresse à des personnes qui sont aussi engagées pastoralement ou professionnellement, mais on a fait le choix de mettre les cours en journée. Si on fait le parcours de l'IER à temps plein, donc le temps plein, c'est sur 3 ans, et en 3 ans, on va préparer un bac canonique de sciences religieuses. Si on le fait sur 3 ans, on vient en cours 2 jours par semaine, le lundi et le mardi. Et puis, il faut compter du temps de travail à côté. Je reprends la question que vous posiez, Marianne, c'est ça, tout à l'heure, sur le temps de travail. Voilà. Moi, je dis à mes étudiants, quand on vient à l'IER et qu'on prend une journée de cours, un mi-temps, faut compter l'équivalent à côté à peu près pour travailler. Donc, quand on a 7 heures de cours, dans la semaine, il faut pouvoir dégager 7 heures de travail. Voilà. Et si je ne dis pas ça, je ne suis pas honnête avec mes étudiants parce qu'il faut se donner les moyens, effectivement, de relire ses cours, de préparer les TD, de préparer des validations. Donc, chez nous, c'est en journée et le calendrier va respecter les vacances scolaires parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont en activité ou en pastorale. Donc, on suit les vacances scolaires. De plus en plus, les étudiants étalent. Alors, j'en ai qui sont à temps plein, qui vont faire le bac en sciences religieuses en 3 ans, mais j'en ai beaucoup aussi qui font du mi-temps. Puis, alors, comme on est très souple, on peut commencer à mi-temps la première année, puis la deuxième année se dire oh, ben, finalement, je vais plus vite, je passe à plein temps, et puis remodifier pour la troisième année. Enfin, voilà, il y a une souplesse. Mais c'est ce qui caractérise le cycle C aussi. Il y a une souplesse. Et puis, les équivalences, bien sûr, quand on vient d'une formation qui est reconnue, voilà, que nous connaissons et dont nous connaissons le sérieux. Donc, le rythme, le public. Et la troisième spécificité, c'est l'organisation des études. Vous avez des grands cours. Et puis, alors toujours, bien évidemment, avec des pédagogies qui s'adressent à des adultes, des cours. Et tous nos grands cours sont accompagnés de TD. Donc, le matin, généralement, on est plutôt en cours et l'après-midi, il y a des TD. Un TD, c'est quoi? C'est un groupe de travail d'une douzaine d'étudiants qui se réunit avec un enseignant. On a reçu un dossier 15 jours avant avec des articles, un guide de travail. Et comme ça, on a pu préparer, on a lu, on a préparé avec un guide de questions. Et le jour de la séance, on a 2 heures pour travailler ensemble. Et ce qui est extraordinaire, c'est que on découvre comment l'autre lit le même texte et comment chacun enrichit le travail du groupe par sa propre lecture, tout ça accompagné par un enseignant qui est expert dans son domaine et qui travaille en lien avec l'enseignant du cours. Voilà la troisième différence par rapport au cycle C, donc l'organisation des études, et puis la manière dont on scande les années. Bien, la première année, ça va être une année d'initiation, et les exigences sont vraiment celles de ce qui correspond à une première entrée en théologie, commencer à savoir lire, à prendre la parole un peu, à pouvoir commencer à rendre compte d'une lecture qu'on a faite. La deuxième année, on approfondit. Alors, on a d'autres matières théologiques, mais on va gagner en assurance dans son propre langage de foi. Et puis, la troisième année, on intègre tout ça. C'est l'année d'intégration. Et cette année d'intégration, elle va contenir deux grands exercices qui amènent à l'obtention du diplôme du bac canonique. Le premier, c'est la rédaction, comme au cycle C, la rédaction d'une grande dissertation sur un sujet qu'on choisit. Et là, c'est assez extraordinaire de voir ce que produisent les étudiants en troisième année sur une question qu'ils ont choisie, un groupe de travail qui les accompagne avec un enseignant pour être en capacité d'élaborer sa problématique et de la traiter. Et puis le deuxième grand examen, c'est un oral. On prépare 10 questions d'oral qui sont transverses et on est capable de prendre la parole sur chacune de ces questions, ce qui permet de revisiter tout ce qu'on a vu en fait pendant les 3 ans et de construire aussi sa propre réflexion. Voilà la manière dont je peux présenter l'IER, son public, son rythme, ses exigences et sa pédagogie, avec une attention de tous nos enseignants. Alors, les enseignants, mais comme au cycle C, les enseignants sont des prêtres, des religieux, des religieuses, des laïcs, hommes et femmes, qui viennent de différentes expériences aussi, différents lieux ecclésiaux, avec chacun leur spécialité. Et il y aura effectivement cette attention à la réalité pastorale et la réalité concrète de l'Église dans le monde. Voilà, ça va vraiment teinter nos enseignements. Voilà. Maintenant, on répond à vos questions si vous en avez.
On peut-être dire aussi, une différence minime, mais aussi on fonctionne par trimestre.
Oui, et nous par semestre. Voilà, l'université fonctionne en semestre.
Par trimestre, c'est-à-dire vous vous arrêtez à Noël et...
Ben, on a 3 trimestres dans l'année, 3 enseignements.
Ah ouais.
Tandis que vous, un cours dure un semestre.
D'accord. Oui, le cours chez nous dure 12 semaines.
Ah oui. Voilà.
Au cycle C, comme à Non,
au cycle C, ça dépend complètement.
Ouais, ça dépend.
On est, il y a tout.
Oui. Tandis que nous, on a un rythme semestriel. Oui.
Mais on a aussi les vacances scolaires.
Peut-être oui, aussi.
La Toussaint.
Voilà, c'est ça. Ce qui change, c'est la Toussaint et février.
Non, février, on a 15 jours.
Ah, d'accord.
Est-ce que vous avez des questions d'ordre divers?
C'est un détail que j'ai entendu au début. Sur l'IER, il n'y aurait pas d'exigence de langue biblique, c'est ça?
Oui, oui.
Et quelles sont donc les exigences de langue biblique en cycle C?
Alors, oui. En cycle C, pour les quatre premières années, il n'y a pas d'exigence particulière. C'est-à-dire qu'au bout des 4 ans, on vous délivre un duet, hein, le diplôme universitaire d'enseignement théologique, voilà, c'est ça, qui ne requiert pas de langue biblique obligatoire. Mais le baccalauréat canonique, lui, donc 4 ans plus tard, requiert 2 langues bibliques de niveau 1, c'est-à-dire une année de chaque. Donc, c'est latin, hébreu ou grec, sachant que c'est mieux si on fait de l'hébreu et du grec. Voilà.
J'ajoute là-dessus, merci, à partir de votre question, Judith, le lien entre l'IER et le cycle C. On se connaît bien Et nous avons à l'IER tous les ans des étudiants qui poursuivent leurs études au cycle C. Et on ne prend pas de retard en faisant l'IER avant le cycle C. Voilà,
nos conventions.
Voilà, les conventions sont établies, les équivalences se font de manière à ce que si vous avez fait 3 ans à l'IER, vous avez votre bac sciences religieuses dans la poche et vous avez envie de continuer, eh ben vous passez au cycle C ou au premier cycle d'ailleurs. On vous fait un contrat sur mesure pour que vous puissiez aller jusqu'au bac canonique de théologie sans avoir perdu de temps. D'accord ? Tous les ans, j'ai des étudiants qui ont fait l'IER puis qui découvrent vraiment un goût pour la théologie, puis qui se disent mais pourquoi j'enseignerais pas, je pourrais poursuivre, faire un master. J'ai vu des jeunes femmes passer au cycle C que tu as, Manon, maintenant.
Oui, absolument.
Et qui vont continuer leur master, et c'est formidable. Voilà, donc ces choses-là se font. Et dans ces cas-là, on rattrape ces langues bibliques, on les fait, de toute façon, elles ne se font pas dans les premières années, ce que dit Manon, et puis on rattrape aussi certains cours de philo.
Oui, c'est essentiellement ça, en fait, qui va faire la différence, réellement. Mmh. Un peu plus de philo.
Voilà, donc je crois que on vous a dit les différences un petit peu sur le fond et sur le contenu. On vous a dit les différences aussi dans les organisations, peut-être un peu aussi dans les pédagogies. Moi, j'enseigne dans les deux, toi aussi, Manon. Et avant d'être directrice de l'IER, j'étais responsable du cycle C une année. Et voilà, je vois bien les étudiants qui se dirigent vers C, je pense, ont un goût plus prononcé pour l'étude théologique, plus spéculative. Hein, Manon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple de cours par exemple, un cours de christologie au cycle C, je ne sais pas combien d'heures il fait, mais je vois Bernard qui hoche la tête.
C'est moi qui le fais au CIF.
Ah ben c'est toi qui le fais au CIF, d'accord. Donc, on a fait de la Christo au CIF. Justement, ça pourrait faire partie des équivalences, par exemple, à l'IER. Mais on sait probablement que l'enseignement va être davantage dirigé vers les problématiques christologiques pour mieux les comprendre, hein, et pour rentrer dans l'analyse de manière un petit peu plus approfondie. Je ne sais pas si Manon peut dire
moins historique, peut-être un peu moins historique, je ne sais pas. Oui, Bernard, tu dirais ça?
Moins historique, sûr.
Le CIF est beaucoup moins historique, oui, pour la christologie, oui, ça c'est clair. Hein.
Voilà, oui.
Mais par exemple, il pourrait être complété à l'Institut catholique, quel que soit le cycle, par un cours sur la Trinité.
Mmh, c'est ça. Voilà. Nous, on a un cours sur la Trinité, bien sûr.
Oui, nous aussi, en troisième année.
Et donc, obtenir une équivalence pour la christologie, mais augmenter d'un cours sur la Trinité serait parfait.
Bien sûr.
Ouais, ouais. Alors, sur le public, le public du cycle C, c'est un public qui est donc la majorité d'entre eux travaillent. Donc c'est un public plutôt professionnel. Moi, ce qui me frappe beaucoup, et je pense que en fait c'est la même chose à l'IER, mais peut-être sous des modes un peu différents, c'est les esprits de promo, en fait.
Ouais.
Ils se créent, en fait, mais de manière quelquefois improbable. Ça nous fait même rire, parce que c'est des amitiés très fortes qui se créent, et des espèces de vie, de promotion qui sont beaucoup accentuées ces derniers temps avec les groupes WhatsApp et tous ces trucs-là, parce que comme on n'a pas pu se voir en présentiel pendant un an quasiment, ça a beaucoup développé ça. Et y a une espèce de, je sais pas, de vie de promo, de camaraderie qui se crée, qui n'est pas, peut-être pas tout à fait la même à l'IER, mais qui existe très fortement à l'IER, parce que alors là, pour le coup, on y vit une journée, on y déjeune ensemble, on y partage des expériences, des soucis, des joies, etc. Peut-être, enfin, on se voit plus longtemps. Mais ça fait partie aussi, je pense, des études, et les étudiants nous le disent toujours, ça, à la fin des études, toujours, on a cette, cette chose qu'ils n'avaient pas prévue, en fait, parce que, et peut-être plus au cycle C, parce que ce sont des professionnels qui vont vite, ils se disent, bon, j'ai 2 heures, là, quand ils font leur calendrier au départ, ils se disent, bon, j'ai 2 heures, j'y vais 2 heures, et puis c'est fini, et etc. Et ils sont toujours attrapés, en fait, par la vie de promo. C'est vraiment ça.
C'est pour ça qu'on vous a présenté le public, parce que entrer en théologie, ça n'est pas uniquement aller chercher des connaissances et du contenu. C'est vraiment une expérience partagée. C'est une expérience de foi. Hein, voilà.
Vous avez dû déjà expérimenter au CIF, d'ailleurs. Mais là, je dirais qu'il y a des mélanges peut-être d'âge, de différences sociologiques, de différences de métiers, de différences. Et donc, le partage est riche, hein, ça, c'est sûr.
Peut-être que vous pourriez nous dire combien il y a d'étudiants dans une année à peu près.
Alors, chez nous, au cycle C, il y en a 25. Voilà, je dirais en moyenne. En moyenne, qui commence. Donc, on perd toujours du monde en route parce qu'il y a des changements de poste, des déménagements et des choses comme ça. Et on en gagne quelques-uns qui arrivent d'ailleurs. Donc, c'est à peu près 25.
Et à l'IER, c'est variable. On a eu des années à 50 et puis, je dirais entre 30 et 50. Voilà, suivant les années. Suivant les envois, suivant les années. Voilà.
Et je pense que c'était important de le dire parce que parfois on s'imagine l'université comme des grands amphis.
Oui, non.
Et en fait, là, tout le monde se connaît.
C'est des petits effectifs et les gens se connaissent et donc, comme ils viennent quand même régulièrement, ils se.
Avec des enseignants qui, comme au CIF, sont très accessibles. Sur l'enseignement, il se fait en dialogue avec les profs. Bernard peut en témoigner parce qu'il enseigne à l'IER aussi et donc il sait comment ça fonctionne. Et il y a vraiment une proximité entre les enseignants et les étudiants, des vrais dialogues qui s'installent. Voilà, on a réussi à relever le challenge de l'enseignement à distance. Ça fait là quand même longtemps qu'on y est. Les étudiants disent que ce qui leur a manqué, d'abord, il remercie beaucoup les enseignants parce que voilà, tout le monde a su s'adapter, mais comme au CIF. Mais ce qui leur a manqué, c'est la vie, c'est le partage, c'est tout ce qui se passe en dehors du cours. C'est à l'intercours, c'est dans l'escalier, c'est quand on déjeune, c'est que voilà, quand on va à la messe du mardi à l'ICP ensemble. Voilà, c'est tous les moments où on peut parler. De ce qu'on a compris, pas compris, échanger sur tel sujet, voilà.
Peut-être dire aussi, c'est que dans les accompagnateurs des groupes, vous avez tous les cas de figure. Donc, si jamais vous vouliez en parler avec des gens du CIF, vous avez évoqué Philippe Armand,
très bon étudiant à l'IER.
Qui a fait l'IER, qui a été répétiteur à l'IER. Vous avez, Marie-Christine et moi, Marie-Christine, toi, je ne sais pas. Moi, j'ai fait le CIF, l'IER et le cycle jour, pas le cycle soir.
Marie-Christine, cycle jour aussi.
Alors, moi, j'ai fait le cycle jour, mais pas l'IER.
Voilà. Gwendoline Gilles.
Oui, Gwendoline.
Le cycle jour. Emmanuelle Pichenet, elle a fait le cycle soir. Oui. Et elle est passée en licence, en deuxième cycle.
Donc, Gwendoline, elle enseigne à l'IER maintenant.
Oui, et au cycle C.
Et au cycle C aussi.
Donc, si
elle commence sa thèse.
Voilà, donc, ce que je veux dire, c'est que si vous êtes intéressé par tel ou tel cursus, que vous avez envie de rencontrer des étudiants ces étudiants, vous les avez à portée de main au CIF déjà. Oui, et après, Manon et Marie-Dominique peuvent vous en faire rencontrer d'autres ou vous pouvez aller les voir.
Oui, tout à fait.
Bon, c'est beaucoup plus clair, effectivement. Plonger dans le site et de nager entre...
Ah oui, ça, c'est pas commode. Hein.
Des charbons, Oui, on voit plus clair.
En tout cas, n'hésitez pas à venir poser des questions et à nous interroger.
Voilà, nous, on reçoit, Manon aussi. Ouais. Donc, vous prenez rendez-vous et puis on discute. Voilà.
Comment s'organisent les équivalences?
Alors, les équivalences, chez nous, elles s'organisent vraiment au cas par cas.
Nous aussi.
C'est-à-dire qu'on va, se mettre ensemble autour d'une table, on va regarder ce que vous avez fait. Et surtout, on essaye de ne pas vous faire perdre de temps, enfin, de ne pas vous faire faire de redites, sauf si vous le demandez, parce qu'il y a des choses qui sont pas claires, qui n'ont pas été claires. Mais voilà, on fait ça vraiment tranquillement, comme
l'avantage
de chacun. Voilà.
L'avantage, c'est que Manon et Marie-Dominique connaissent absolument tous les étudiants du CIF, puisqu'ils enseignent tous à la CATO.
Tous les enseignants. Tous les enseignants.
Oui. Oui, oui, on connaît tous les enseignants du CIF.
On voit très bien quel genre de cours ils ont pu faire, même si ce n'est pas
tout à fait le même. Oui, oui, absolument.
Et toi aussi, les équivalences, vous les faites beaucoup partout. Enfin,
absolument. Absolument. On a une convention qui.
Que vous voulez y mettre aussi, parce qu'on n'a pas besoin non plus de foncer comme des.
Oui, moi, quand je reçois les étudiants, donc, parce que les équivalences peuvent être données pour des cours que vous avez suivis aussi, ou dans d'autres formations, mais ils peuvent être donnés aussi si vous êtes historien, si vous philosophe, si vous êtes juriste, enfin voilà, on reconnaît toutes vos formations antérieures et vous pouvez avoir des équivalences dans un certain nombre de domaines. En fait, ça se discute parce que moi, quand je présente le programme, souvent j'ai des étudiants qui me disent « Oh ben non, finalement, j'en veux pas de l'équivalence parce que je vois bien que… »
Si plus, Marie-Dominique.
Pardon ?
Vous m'entendez plus ? Vous m'entendez plus ? Non, c'est moi, pardon.
Bon, c'est bon.
Voilà, si je loupe ça, je vais pas avoir les TD. Donc, quelquefois, ça se rediscute. Donc, on reçoit les personnes et ensuite, pour que ce ne soit pas arbitraire, nous avons une commission d'équivalence qui étudie les dossiers. Donc, moi, j'ai deux enseignants qui forment ma commission d'équivalence et nous étudions les dossiers des étudiants qui veulent s'inscrire pour être le plus juste possible dans l'octroi de ce qu'on appelle, je vais dire un gros mot, les crédits ECTS. C'est un très gros mot, mais c'est notre outil quotidien. Les crédits ECTS, avant, on parlait comment on disait ça ?
D'unité de valeur,
c'est ça. Maintenant, on ne parle plus du tout du V, on parle d'ECTS. En fait, je vous dis très rapidement, parce que si vous regardez nos papiers, vous allez voir ce mot-là partout. Un ECTS, ça équivaut à dire « je reconnais que l'étudiant a travaillé tant de temps ». Un ECTS dit « si je vous donne un ECTS, je reconnais que vous avez travaillé entre 25 et 30 heures ». Et donc, dans ces 25 et 30 heures, il y a le cours suivi, il y a le TD préparé, il y a les validations, etc. Donc, vous verrez dans nos cours, dans les présentations, un cours, par exemple, de 24 heures à l'IER, on va lui donner 24 heures, donc ça fait 2 heures par semaine sur 12 semaines. On va lui donner 4 CTS, alors qu'il ne fait que 24. Mais parce que, je dis, l'étudiant qui suit une heure de cours, il travaille 3 fois plus à côté. Et je reconnais ce travail-là, je le valorise en donnant les ECTS. Voilà, c'est le mode de calcul pour obtenir les niveaux de L1, de L2, de L3, etc. Et au cycle C, c'est pareil, avec une plus forte valorisation du travail personnel, puisqu'il y a moins de cours en présentiel. C'est ça, Manon ?
Exactement, c'est ça. Et donc, et en fait, les diplômes se calculent en nombre de CTS obtenus.
Voilà.
On fait la somme de tout ce qui a été obtenu avec les cours, les TG, le travail personnel, de validation, etc.
TG, ça veut dire quoi ?
Travaux de groupe.
Travaux de groupe.
Ça équivaut à ce que vous faites en groupe.
D'accord. TG. Oui, oui. D'accord. J'avais compris DG, directeur général. Donc cycle C, quel jour sont les cours ?
Au cycle C, c'est le lundi soir.
Le lundi soir. D'accord.
20h, 22h.
Vous êtes resté sur les mêmes jours, hein, parce que l'IER, c'est aussi le lundi et mardi.
Oui. Oui, ça, j'avais noté. Oui.
Et aussi, c'est le lundi et le lundi.
Lundi et mardi.
Lundi et mardi, oui.
C'est un pli à prendre.
C'est un pli à prendre pour quelque temps. Oui.
Pour la vie.
Et l'IER, si c'est en mi-temps, c'est le lundi ou le mardi ou c'est au choix en fonction de…
Non, alors, ce n'est pas au choix. Chaque année se découpe en lundi-mardi. Donc, si vous la première année, si vous la faites sur deux ans, vous venez le lundi et puis l'année suivante, le mardi.
D'accord.
Voilà. Oui. Et là aussi, on jongle. On a des étudiants qui ont des engagements professionnels. Voilà, ils ont du mal à changer de jour. Alors ils font lundi, puis après ils font les mardis. Et bon, bah voilà, on s'arrange pour pouvoir suivre les études.
J'aurais un certain nombre de questions. Simplement, Marie-Dominique, vous venez de dire une journée de 1 heure de cours, ça fait 3 heures de travail personnel. Tout à l'heure, j'ai noté 7 heures de cours égale 7 heures de travail. Donc, je suis un peu perdu dans les multiplications.
1 heure, c'est plus cher.
Non, mais parce qu'on est, on valorise probablement plus que le travail effectif qui est donné. Mais c'est une estimation que je vous donne. Quand je dis il y a 7 heures de cours, il faut compter 7 heures de travail à côté. Peut-être ce que disait Manon, peut-être que parfois vous en passerez 15 et puis vous allez lire un bouquin parce que vraiment vous avez envie de creuser le sillon. Et ben vous allez avoir, voilà, ça vous rendra peut-être 20 heures ce bouquin. Tout ça, je le compte en fait dans les ECTS accordés. On compte tout ce que fait, on reconnaît qu'un étudiant qui suit 1 heure de cours, ben, il fait plein d'autres choses à côté. Sa formation, c'est aussi les articles qu'il va lire, les livres, voilà, ce que lui-même va chercher, etc. Vous voyez donc ce qui est requis, enfin, l'estimation que je donne, c'est 7 heures de cours, attention, c'est au moins 7 heures de travail, mais je sais que mes étudiants, ben, voilà, et j'espère, ils vont lire, ils vont aller écouter telle conférence, enfin, voilà, ils vont déployer d'autres choses, et je le reconnais, ce travail-là, au travers des ECTS. D'accord ?
Ok. Alors, j'avais regardé votre site, hein, vous l'avez compris, moi, mon frein, c'est les diplômes. Comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai pas du tout envie d'avoir un diplôme, ça m'intéresse absolument pas à mon âge. J'ai vu, donc j'ai les papiers sous les yeux, j'ai tiré quelques pages de vos 90 pages de catalogue, là. J'ai vu qu'il y avait des visiteurs libres. J'ai vu les programmes du lundi, les programmes du mardi. Bien évidemment, moi, je suis intéressé par le cursus complet et non pas pour aller suivre un cours de 12 heures ou un cours de 24 heures. Je vois qu'il y a des tarifs pour des cours à l'unité. C'est pas du tout ce qui m'attire. Ce qui m'attire, c'est bien le cursus complet. Simplement, est-ce qu'il est possible de faire le cursus complet en auditeur libre, c'est-à-dire non intéressé par le...
Alors...
par le diplôme, mais intéressé par les travaux de groupe.
Ouais. Alors, je pense que vous ne posez pas tout à fait bien la question et qu'on va évacuer la question du diplôme qui ne vous intéresse pas. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est le travail que vous allez fournir. Et en fait, la différence, elle va être entre l'auditeur libre ou l'auditeur validant. Parce que qu'est-ce qui nous fait nous approprier un cours ? Bon, c'est le travail de validation qu'on va faire. Voilà. On va creuser une question, la traiter, s'obliger à préparer un oral, lire, se documenter, construire son argumentation pour le présenter. Et c'est là qu'on se forme. Vous voyez ? Donc, vous pouvez suivre les cours soit en étudiant, temps plein, temps partiel, soit en auditeur libre, si c'est votre choix, soit en auditeur validant. Et les auditeurs validants, voilà, ils s'inscrivent, ils choisissent leur cours, mais ils valident parce que... alors, on en a qui commencent comme vous, hein, en auditeur libre, puis au bout de quelques cours, ils disent « Attendez, je valide parce que je vois bien que sinon, je vais pas faire ce travail véritablement d'appropriation. » Donc, moi, mon conseil, c'est vraiment de s'inscrire, si c'est votre souhait, en auditeur validant. Je ne sais pas, Manon, qu'est-ce que tu penses?
Je dirais exactement la même chose. Au cycle C, c'est aussi possible de faire, d'avoir les trois formules, c'est-à-dire faire vraiment le cursus et le faire en auditeur ou en auditeur validant. Je pense que l'intérêt du cursus, c'est justement de profiter de l'organicité des disciplines telles qu'elles sont organisées et que si on ne va pas jusqu'à construire sa propre argumentation sur un sujet dans chaque discipline, on perd quand même beaucoup de, de la faire. Donc, surtout d'autant plus que vous dites que vous êtes intéressé par le cursus et non pas, pas d'aller attraper un cours à droite ou à gauche, que ce soit aussi à l'ICP ou ailleurs. Je pense que vous profiterez beaucoup moins de la, du fait du cursus si vous ne validez pas. Mais cela dit, si vous ne voulez pas effectivement vous engager dans un cursus qui vous oblige à faire absolument telle discipline de telle année, faites-le en
audit. La seule exigence que nous avons vis-à-vis des auditeurs libres pour les inscriptions en TD, c'est la pleine participation et l'exigence de travail. Parce qu'on ne peut pas venir à un TD en spectateur. On vient à un TD parce qu'on a travaillé. Donc, autant valider.
Bah, autant valider. Voilà, c'est exactement ça. Mmh.
C'est comme ça que j'ai refait de la philosophie, moi.
Oui.
Je suivais des cours...
Sinon, vous êtes en dehors du groupe, en fait.
Oui, en fait, aussi, on n'a pas de validation, on a des travaux de groupe. Et en fait, les gens préparent leur travail et simplement, on le voit bien... Je dirais, on a tous une autre vie que la théologie et on a des gens qui sont absents à telle ou telle réunion de groupe. Ils n'ont pas préparé, ils ne viennent pas, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas partie intégrante du groupe. Quand ils sont là, ils ont préparé. Moi, je suis à un moment de ma vie, comme je le disais tout à l'heure, là, depuis plus d'un an, je ne vois pas mes petits-enfants parce qu'on est tous confinés. Quand j'ai annoncé à ma femme que de temps en temps, j'aurais pu, mais lundi, elle m'a dit, attends, il n'est pas question que... Je viens de me prendre une semaine, on vient d'aller voir 3 enfants et 8 petits-enfants, on a profité, ben j'ai bouffé de lundi. Oui. Il y en a un, c'était le lundi de Pentecôte, donc il compte pour du beurre. Mais enfin, si j'ai envie de partir lundi prochain, je repars lundi prochain. Et ça ne veut pas dire qu'on ne s'implique pas dans un travail, mais la notion de présentéisme, je ne sais pas si le mot est juste, mais enfin, la notion de présentéisme, la notion de travail à faire, etc. À un moment donné, je me dis, j'ai plus l'âge.
Voilà. Oui, oui.
Par contre, le cursus complet m'intéresse.
D'accord. Okay. Alors, bon, cela dit, il y a toujours des. Voilà, nous avons des étudiants hein, qui ont, voilà, comme vous, des charges familiales ou associatives, etc. Et si pour telle ou telle raison, on prévient et qu'on manque une semaine, ben, on manque une semaine, et puis on rattrape les cours, et puis on donne sa préparation écrite du TD. Mais c'est vrai que vous rentrez dans un cursus universitaire, donc il y a les exigences qui vont avec, mais les exigences sont là, sont au service, au service du travail de la pensée qui se construit. Hein. Ce n'est pas des exigences pour des exigences. Hein.
Non, mais
vous voyez, c'est ça.
J'entends bien, mais ceci étant, c'est quand même un cycle où il faut être, entre guillemets, toujours présent. Aussi, on a la possibilité de réécouter. J'ai été absent. Oui. Je voulais les cours de morale l'autre jour. Bon, ben, j'ai réécouté depuis. Mais effectivement, c'est plus facile de réécouter 2 heures que 7 heures. Ça, c'est clair. Louper un lundi aussi, c'est louper 2 heures. Chez vous, louper un lundi, c'est louper 7 heures. Et c'est très difficile de rattraper 7 heures. J'en suis très conscient.
Voilà, mais il faut. Voilà, si votre réflexion se poursuit, venez, on se rencontre et puis voilà, on discute du cursus qui sera le mieux pour vous.
Bon. Eh bien, ok, c'est bien. Bon, merci, hein, merci à tous.
Ouais, merci à Aude.
Oui, merci.
Merci à vous. Aude. Oui, merci.
En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais donner le lien de l'enregistrement. On va le mettre sur la bibliothèque de cours, hein, si vous voulez réécouter des passages. Je leur enverrai aux 2 qui ne sont pas là. Peut-être qu'ils vous contacteront.
Très bien.
Il y en a un, ça serait plutôt Étienne Keller, ça serait plutôt aussi que le soir. Mmh. Ariane, peut-être IER, plutôt, ça ne sera pas le soir de toute façon. Il faut voir. Voilà.
Voilà, mais n'hésitez pas à prendre rendez-vous.
Oui. Ce qui était intéressant, c'est que c'est la première fois qu'on le fait sous cette forme-là. Oui. Me demandais un peu combien on serait. Bon, bah, tu vois, finalement, on est 5 personnes intéressées par l'idée déjà. En fait, avec les 2 qui ne sont pas là. Ok.
Très bien. Très bien, très bien.
Merci beaucoup de nous avoir donné votre soirée. Hein.
Merci. Merci.
Bonne réflexion à tous.
Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup.
À la prochaine.
Au revoir. Merci Aude, au revoir.